enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci de disposer le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur. Oh Dieu, que ce message apporte la vie dans chaque homme intérieur. Et que Jésus soit dépeint de façon extraordinaire dans nos cœurs. Et que nous puissions comprendre, ô Dieu de gloire, quel est l'héritage que tu réserves aux saints. Et quelle est la puissance que tu as déposée dans chacune de nos vies. Pour que nous ayons accès à ta gloire et à la manifestation de ton triomphe dans nos vies. J'ordonne maintenant à toute adversité contre cette parole de s'en aller au nom de Jésus. Reçois ce message et qu'il change ta vie et ta destinée. Et que ce message t'amène d'entrer en possession des promesses que Dieu a annoncées dans sa parole pour toi. Ta vie, par conséquent, ne sera plus jamais la même. Car Dieu t'amène à aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. Merci Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Nous avons le privilège, encore ce jour, d'écouter un message prophétique venant du trône de Dieu pour notre édification, pour notre épanouissement et un message qui aidera chacun d'entre nous à entrer en possession de son héritage et à manifester le règne de Dieu dans nos vies et dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons vu lors du message précédent concernant les deux lois spirituelles, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché et de la mort. Et nous avons parlé de la loi. Nous avons dit que ce monde est régi par les lois. Et même le monde physique qui nous entoure, il existe et subsiste simplement à cause de la loi de la gravité qui permet, n'est-ce pas, à la lune, au soleil, à la terre, de ne point se cogner, chacun respectant son orbite. Nous sommes allés plus loin. Et nous avons expliqué que si vous prenez un enfant en noir et un enfant blanc, vous mettez à 10 étages, oh, vous les lâchez vers la terre, les deux seront attirés par la terre. Et pourquoi? Parce qu'il existe la loi de la pesanteur qui crée l'attraction sur tout objet qui est lâché dans les airs, qui sera automatiquement, n'est-ce pas, attiré vers la terre. Et donc, les juristes le savent, la loi c'est une force. Et c'est pour ça qu'une nation qui respecte les lois est une nation forte. Et généralement, les nations sous-développées, ce ne sont pas des nations où on a, n'est-ce pas, la force de la loi, mais ce sont des nations où on a le droit de la force. Ou les nations où, n'est-ce pas, l'état judiciaire n'est pas respecté, où on ne respecte pas ce qui est loi. La loi, c'est une force. Elle est une force parce qu'elle n'a de respect pour personne. Est-ce que vous me comprenez? Elle ne respecte que ceux qui la respectent. Aussi longtemps que vous la mettez en action, elle se met en marche contre vous ou pour vous. Alors, nous avons parlé de la loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et nous avons dit que le monde naturel dans lequel nous vivons est une parallèle d'un monde spirituel, un monde surnaturel qui existe. Si des lois naturelles existent, c'est parce qu'il existe des lois spirituelles. Et dans l'existence des lois spirituelles, il y a deux lois majeures. La première, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est par cette loi que Dieu donne aux enfants de Dieu d'avoir accès à la vie. Sans cette loi, nous n'avons pas accès à la vie. Et vous devez comprendre que quand vous avez activé la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, cette loi se déclenche à votre égard. Que vous le voulez ou non, il y a des choses qui vous arrivent. Et les choses qui vous arrivent ne sont pas de mauvaises choses, mais des choses qui découlent de la vie. Vous avez la joie, vous avez la paix, vous avez la prospérité, vous avez la santé, vous avez le mariage, vous avez la prospérité, vous avez la gloire qui arrive par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez attentivement. Le royaume des ténèbres aussi active une autre loi. Cette loi, celle-là, c'est la loi du péché et de la mort. Et donc, nous avons vu que le symbole même de la puissance des ténèbres, c'est la mort. C'est-à-dire, le royaume des ténèbres nous conduit à la mort, à la ruine totale. Mais avant la mort finale, nous expérimentons certaines choses. Les cas de possession, ce sont des choses qui viennent de la loi du péché et de la mort. La mort prématurée, c'est ceux qui sont sous l'emprise de cette loi qui, n'est-ce pas, voient la manifestation de telles choses. Je continue. Même les cas de maladie découlent de la loi du péché et de la mort. Parce que quand l'homme n'avait pas péché, il n'y avait pas de maladie. Ok? Les guerres découlent de cette loi-là qui a été mise, n'est-ce pas, en mouvance dès que l'homme à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Alors, suivez-moi attentivement. Vous savez, la peur, la pauvreté, la mort prématurée, l'échec, toutes ces choses découlent de la loi du péché et de la mort. Mais le test que nous allons lire ce matin est clair. Romains 8, versets 1 à 2, nous y revenons. Alors, tourne ta Bible à ce test et regarde de tes propres yeux ce que la parole de Dieu déclare. Car elle n'est pas ma parole, elle est la parole de l'Éternel, le Tout-Puissant. La Bible dit, la Bible, le livre de la vie dit ceci. Il n'y a donc maintenant, j'aime ça parce que Dieu est précis. Il dit, il n'y a donc maintenant, à l'heure où on parle, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire que avant le maintenant, il pouvait y avoir des condamnations. Mais la Bible dit, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, j'aime ça, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On ne parle d'affranchissement que quand il y avait captivité, esclavage. Donc, avant l'affranchissement, j'étais captif, j'étais esclave. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi, m'a libéré, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Et j'aime ce que Jésus dit. Il dit, celui que le Fils affranchit est véritablement libre. La bonne nouvelle, c'est que quand j'ai reçu Jésus, je suis libéré. Je le suis véritablement. Je suis véritablement libre. Alors, je réponds aux questions que vous êtes en train de vous poser dans vos cœurs. C'est-à-dire, est-ce que, aujourd'hui, si je tombe malade, si je suis pauvre, si je suis possédé, si je meurs prématurément, est-ce à dire, en tant que chrétien, que la loi n'a pas été activée à mon égard? Parce que, en annonçant la liberté, tout de suite, certaines personnes parmi vous me disent, mais homme de Dieu, je vais à l'église depuis longtemps. J'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je paye ma dîme, je suis fidèle, je respecte les Écritures, mais jusqu'aujourd'hui, je vois certains signes, certaines œuvres de la loi, du péché et de la mort continuer d'agir dans mon camp. Que se passe-t-il? Est-ce que vous comprenez? Que se passe-t-il? Vous voyez, est-ce à dire que quand ces choses arrivent, quand je tombe malade, quand, par exemple, je connais l'échec, quand, par exemple, je suis à ma tête, est-ce à dire pour autant que je ne suis pas libre? Non! Certaines personnes vont jusqu'à croire que si ces choses arrivent, ça veut dire qu'ils ne sont plus chrétiens, que Dieu les a abandonnés. J'ai vu des personnes qui sont venues avant me dire, « Homme de Dieu, je n'arrive pas à comprendre. J'ai comme l'impression que Dieu m'a abandonné. » Et souvent, il peut arriver que vous traversez des temps extrêmement difficiles. C'est comme si Dieu vous a permis de faire un voyage en enfer. Vous regardez autour de vous, il n'y a aucune personne pour venir à votre secours. Et tout vous laisse croire que Dieu vous a laissé tomber. Non, ce n'est pas vrai. Suivez-moi bien. Je vais, par cet enseignement, vous montrer comment est-ce qu'un enfant de Dieu devra être de façon pratique libéré de la loi, du péché et de la mort. Comment on en est libéré? C'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est vrai, Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est vrai, j'ai accès à l'arbre de la vie. J'ai accès à la vie éternelle. Mais, comment est-ce que de manière pratique, quand j'identifie dans ma vie la manifestation du règne de Satan, je prends autorité contre. Comment est-ce que j'amène l'arbre ou alors la loi de l'esprit de vie en Jésus à être une vérité manifeste dans ma vie de tous les jours? Parce que suivez-moi bien, il existe la vérité scripturaire et puis il existe la vérité positionnelle. C'est-à-dire que la Bible peut dire, ok, par les meurtres de Christ, tu as été guéri. Et dans ta vie, tu es malade. Cette vérité, elle est scripturaire. C'est une vérité scripturaire qui est vraie dans la parole. Mais qui, dans ta vie de tous les jours, n'est pas vraie. Dans ta position actuelle, la vérité n'est pas démontrée. Alors, il faut amener la vérité scripturaire à être aussi une vérité positionnelle. Dans ta vie de tous les jours, ce que la Bible dit devra être ce qui est. Sans aucune autre excuse. Sans excuse. La parole de Dieu devra être ce qui est dans tous les domaines de ta vie. Et c'est pour ça que je vous encourage à être sincère dans votre marche avec Dieu. Vous ne m'impressionnez pas, ni même pas vos voisins. Ou alors vos amis, quand vous dites des choses juste pour le dire. Il faut s'arrêter un moment et examiner dans votre vie les choses qui ne sont pas comme Dieu veut qu'elles soient. Et décider d'avoir une victoire sur chacun de ces domaines. Si tu sens, tu te rends compte que dans ta vie, tu n'es pas prospère. Dans ta vie, tu es toujours malade. Dans ta vie, tu as toujours des échecs. Ou alors, le ciel est fermé au-dessus de toi, tu dois t'arrêter. Il y a quelque chose que tu dois faire pour amener la loi de l'esprit de vie à amener sa manifestation dans ta vie de tous les jours. Sachant que le ciel est avec toi. Est-ce que tu me comprends? Donc ce message ne concerne que ceux qui sont prêts à changer. Ce message ne concerne que ceux qui sont prêts à aller à un autre niveau avec Dieu. Ce message concerne ceux qui croient qu'ils sont des champions et des héros en l'Éternel. Ce message concerne ceux qui veulent voir la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Ce message concerne ceux qui sont fatigués de vivre comme ils vivent aujourd'hui et qui veulent aller à un autre niveau de gloire. C'est ton message. C'est la raison pour laquelle tu dois l'écouter. C'est la raison pour laquelle tu dois le mettre en pratique. Après ce message, tu seras une terreur pour l'enfer. Tu ne vas plus jamais fuir l'adversité, mais tu vas l'appeler. Tu vas dire, je cherche l'adversité. Parce que tu vas comprendre que chaque adversité est une opportunité que Dieu te donne de voir la manifestation de sa gloire. Et tu comprendras que la puissance de Dieu réside en toi et que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Tu ne fuiras plus les démons, mais les démons vont te fuir. Tu ne vas plus courir de gauche à droite pour dire, il faut qu'on me délivre. Non, tu te tiendras là, tu ouvriras ta bouche et les gens possédés à 1000 mètres tomberont sous la puissance de l'Éternel. Car celui qui est en toi est plus fort. Ce message t'amène à un autre niveau de ta marche avec Dieu. Nous sommes une génération dans laquelle Dieu veut relâcher sa gloire comme il ne l'a pas fait de par le passé. Nous sommes une génération bénie. Bénie parce que nous sommes davantage proches de l'avènement du Seigneur. Vous voyez, j'ai vu des gens, des chrétiens, et même plus loin, j'ai vu des pasteurs qui ont commencé à douter de la véracité de l'Écriture. Et qui sont arrivés à croire que la Bible n'était qu'une histoire. Et ils ont fait de leur marche avec Dieu juste une religion. Venir à l'église, danser, acclamer, chanter, et puis rentrer à la maison. Sans aucun bouleversement. Non, non et non. La parole de Dieu n'est pas une histoire. La parole de Dieu est la vérité suprême à laquelle devra se soumettre tous les mensonges de l'ennemi. Et si tu es dans la condition où tu as cessé de croire en la puissance de cette parole, j'ai dit, donne-moi une chance d'écouter ce message jusqu'à la fin. Et tu comprendras que le diable t'a longtemps menti pour voler la gloire que Dieu t'a accordée. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Suivez-moi bien. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. La connaissance de la vérité. Maintenant, dans la connaissance de la vérité, comment, suivez-moi bien, comment avons-nous donc vaincu? Comment est-ce que la victoire nous a été accessible? Comment est-ce qu'elle est manifeste? Tu vois bien. Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 12? Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 12? Elle dit simplement, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Nous avons vaincu, numéro un, à cause de quoi? À cause, et numéro deux, et à cause des paroles de notre témoignage. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, se sont arrêtés à la victoire du sang. Et ils n'ont pas compris que la Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Ok? Donc nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Verset 11, on peut aller même jusqu'au verset 12. Apocalypse 12, 11. Alors suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Quand la Bible parle de la victoire par le sang, qu'est-ce que la Bible insinue par là? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Nous avons vaincu par le sang. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Ah, nous avons vaincu par le sang. Qu'est-ce que cela explique? Quelle a été la cause de notre captivité? C'était quoi le problème? C'était le péché. Alors, le péché était le problème. Et si nous avons vaincu à cause du sang, le sang est la seule chose capable d'effacer nos péchés, n'est-ce pas? Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Maintenant, suivez-moi bien, suivez la révélation. Le sang nous a donné au péché d'être ôté. Mais quand le péché est arrivé, le péché avait déjà ses conséquences. Il y a eu les conséquences du péché. Ok? Il y a eu les conséquences. Quand on a péché, les conséquences c'est quoi? Il y a eu la maladie, la mort. Il y a eu quoi d'autre? La pauvreté. Il y a eu quoi d'autre? La misère, etc. Ok? D'accord. Ok, suivez, il y a eu toutes ces choses. Maintenant, suivez-moi bien. Le péché a été réglé. Gloire à Dieu, on a vaincu à cause du sang. Donc, le péché a été vaincu. Alors, qu'en est-il de ses conséquences? Les conséquences du péché, qu'en est-il? Hein? Maintenant, les conséquences du péché doivent aussi être vaincues. Parce que le péché a été vaincu. Donc, les conséquences aussi devraient être vaincues. Maintenant, suivez-moi bien. Au niveau des conséquences, Dieu nous confie la responsabilité, chacun d'entre nous, d'annuler les conséquences du péché dans notre vie. C'est ça, là, vous savez, et c'est ça le grand problème. Suivez-moi bien. Je n'avais pas vu la Bible comme ça jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi. Suivez-moi attentivement. Vous voyez, vous devez comprendre ceci. Si la Bible dit nous avons vaincu à cause des paroles de nos témoignages, c'est que ce sont les paroles de ton témoignage qui légalisent l'action de Dieu dans ta vie. Je reprends. J'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de mon témoignage. Si je ne témoigne pas, je ne légalise pas l'action de Dieu en ce qui concerne le domaine précis de ma vie. Je reprends. Je prends l'exemple sur votre salut, suivez-moi bien. Et là, je dis, ça va faire de toi un chrétien extraordinaire. Pas comme les autres. Amen. Suis-moi bien. Jésus a payé le prix pour ton péché et pour le péché de l'humanité. Vous êtes d'accord avec moi? Mais maintenant, qu'est-ce qui fait de toi que tu sois sauvé? La Bible dit, qu'est-ce qui fait que le salut devient manifeste pour toi? Parce que, selon la Bible, toute l'humanité a été sauvée en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui amène ton salut à manifestation de façon réelle, de façon positionnée sur la terre? C'est quoi? La foi. Mais comment est-ce que ta foi a été exprimée? Par ton témoignage. Pourquoi? Parce que tu as cru dans ton cœur et un jour, tu as dit de ta bouche, je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renonce à Satan et je l'accepte, Jésus, dans ma vie. Comme, n'est-ce pas, celui qui va conduire ma vie dès cet instant jusqu'à jamais. Et dès que tu l'as dit, qu'est-ce que tu fais? Tu as légalisé l'action de Dieu dans le domaine du salut. Et donc, tu as donné la possibilité à Dieu de régler la question de salut en ce qui te concerne. Et dès cet instant, tu es sauvé, suis-moi bien. Mais si tu as fait la prière, alors que dans ton cœur, tu n'as pas cru, le salut n'est pas manifeste. Parce que seules les paroles remplies de foi activent la loi de l'esprit de vie. Est-ce que ça va? Seules les paroles remplies de foi activent la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc la parole de foi que tu as prononcée concernant ton salut a amené à manifestation le salut. Mais Dieu n'attend pas que tu t'arrêtes là. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on s'est arrêté là. Oh, j'ai reçu Jésus, je suis sauvé, alléluia, amen, alléluia. Et puis on danse à l'église. Mais tu as reçu Jésus, tu es sauvé. La vie éternelle t'est accordée, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que tu vis dans un monde physique où tu as besoin de plus que Jésus. Au-delà du fait d'être sauvé, tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin d'être en bonne santé, tu as besoin d'avoir de la joie. Tu as besoin d'avoir de la paix. Tu as besoin de prospérer. Tu as besoin de vivre longtemps. Tes enfants ont besoin de la gloire de l'Éternel. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de sa puissance. Et tu as donc besoin, en ce moment, de continuer le même processus. Tu dois utiliser ta même bouche pour amener à manifestation les choses que tu as envie de voir. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve dans ta bouche. Et toi, tu décides d'en manger les fruits. Si tu pouvais savoir, dis à ton voisin, si tu pouvais savoir quelle est la puissance de Dieu qui est en toi, alors tu ne diras pas n'importe quoi. Tu ferais attention à ce que tu annonces. Si tu savais simplement que quand tu parles, ce que tu dis, c'est ce qui se trouve à ta table à midi, tu ferais attention. Si tu savais que ce que tu dis, c'est ce qui t'habille après, tu ferais attention. Si tu savais que ce que tu annonces de ta bouche, c'est ce qui définit ton salaire, tu ferais attention. Si tu savais que ce que tu dis, c'est ce qui amène ton mari, tu ferais attention. Si tu savais que ce que tu dis, c'est ce qui amène ta femme, alors tu ne dirais pas n'importe quoi. Si tu savais que c'est ce que tu confesses qui amène l'homme qui est en face de toi à partir, tu ferais attention à ce que tu dis. Tu te réaliseras alors que tes enfants sont devenus rebelles parce que tu as confessé la rébellion sur leur destinée et tu as activé la loi de la mort qui a eu le pouvoir sur la vie de tes enfants. Comment tu utilises ta bouche? Comment tu parles? Quel est ton langage? N'oublie jamais que ton langage est l'expression de ta foi. Ta manière de parler révèle la foi que tu as. Comment tu parles? Vous savez, je suis souvent étonné. Tu pries pour quelqu'un aujourd'hui, et puis il vient te voir demain. Révérend, tu sais, en ce qui concerne le problème là, il faut encore prier pour moi. Oh, tu sais, ça ne marche pas bien. Et puis tu es motivé de dire, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. J'ai prié pour la personne. J'ai annoncé quelque chose, j'ai décrété des paroles. Souvent, c'est le même jour, après avoir terminé la prière, le même jour, avant que la personne ne sorte de ton bureau, la personne te dit, révérend, ne m'oublie pas, s'il te plaît, parce que ça va mal. Et au même moment, la personne vient, pendant que tu as activé la loi de la vie, la personne vient de réactiver la loi du péché et de la mort, pour dire, je reste sous la captivité de Satan. Parce que tes paroles détermine l'issue de la bataille. Ce sont tes paroles qui vont déterminer si oui ou non ton Goliath sera terrassé. Ce sont tes paroles qui vont déterminer si oui ou non ton salaire sera augmenté. Le langage de ta bouche. Nous activons la loi de l'esprit de vie en Jésus par notre confession. Et c'est pour ça qu'en aucun moment, vous ne m'entendrez confesser des choses négatives. Tu m'appelles, même au milieu du deuil, en train de mettre quelqu'un sous la terre. Allô, comment ça va? Je te dis, super bien. Dieu au contrôle. Même s'il n'y a pas d'argent dans la poche, même s'il n'y a pas d'argent en banque, super bien. Parce que je ne donne pas l'opportunité à Satan d'utiliser mes confessions pour amener dans ma vie ce qu'il veut voir. Je n'ai pas peur des réalités présentes. Je confesse les choses comme ma Bible le dit. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, quand vous entrez dans cette dimension de la marche avec Dieu, on commence à dire, il est prétentieux, il est orgueilleux, il se prend pour qui? Je me prends pour ce que je suis, le Fils de l'Éternel. Je me prends pour ce que je suis. Pourquoi tu veux que je me prenne comme un échec? Non, je suis un succès ambulant. Je ne me prends pas pour n'importe qui. Je me prends pour le sacerdoce royal, pour la nation sainte. Je me prends pour cet homme dont personne ne peut arracher un cheveu sans l'autorisation de son père. Je me prends pour celui-là que Dieu a aimé et il a envoyé son fils mourir à la croix. Je ne me comporte pas comme quelqu'un qui va se perdre. Je suis une réussite, que le diable le veuille ou non. Il n'aura pas de ma bouche le contraire. Je confesserai la parole de Dieu. Je suis ce que la Bible dit et non ce que les circonstances me dictent. Même si on me met dans la fosse lion, même si tu me jettes dans le feu, je te dirai ça va bien. Parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Est-ce que ça va? Je ne confesse pas ce que je ressens. Je confesse ce que je crois. Et souvent ce que je crois est différent de ce que je ressens. Mais je confesse ce que je crois. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je sais que ma bouche a le potentiel d'amener beaucoup de choses en manifestation. Je fais attention à ce qu'elle déclare. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur ma langue. En quelque sorte, tu vois moi bien, pour bien comprendre ce passage, le pouvoir d'activer la loi de l'esprit de vie en Jésus et le pouvoir d'activer la loi du péché et de la mort se trouve sur ta langue. C'est fort. C'est ce que ça veut dire. Chaque loi est activée par tes confessions. Comment est-ce que tu l'actives? Tu vois des gens, oh oui, non, vraiment, je sens que je ne vaux rien. Ma vie n'est qu'une catastrophe. Ma vie n'est qu'une calamité. Oh, et il y a des gens même qui viennent te dire, je sens que je suis en train de perdre mon travail. Oh my God. Je sens, une dame m'a appelé de Paris récemment, je sais que mon mari est en train de partir. Je sais qu'il est en train de me quitter. Mais pasteur, et vous sentez dans la voix la peur qui envahit ses membres. Et puis je dis, alors, et vous savez ce que je lui ai dit? Elle me dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, il va vraiment te quitter. Elle était choquée. Et elle dit, prophète, qu'est-ce que l'Éternel dit? Je dis, tu as dit toi-même, il est en train de te quitter. Il va vraiment te quitter et rien ne peut changer le fait. Elle dit, il n'y a rien à faire, révérend. Je dis, ferme ta bouche, c'est ce qu'il y a à faire. Vous savez, souvent avec les gens, il faut être dur. Ferme ta bouche et cesse de parler. Si tu n'as rien de bon à dire, tais-toi et va prendre la cassette, écoute le message. Bam, renouvelle ton homme intérieur. Encourage-toi dans la parole. Ferme ta bouche, ne dis rien. Est-ce que ça va? Si ça va mal, tais-toi, ne parle pas. Ferme ta bouche. Oui, ça peut arriver que ça aille mal, mais ferme ta bouche. Si c'est trop grave, coule-la avec un fil et de l'aiguille pour ne pas parler. Jusqu'à ce que ça aille, écoute simplement la parole. Encourage-toi. Et quand la foi va commencer à monter dans ton cœur, et quand tu vas commencer à voir les choses différemment, alors tu vas te lever, alors tu vas ouvrir ta bouche et tu vas annoncer ce que la Bible dit. Dans la détresse, ferme ta bouche. Quand tu sais que ça ne va pas, ne dis rien de du tout. C'est normal qu'à des moments précis, les choses aillent mal. Mais ne sois pas là pour apporter le cachet sur la malédiction qui t'est adressée. Non. Ferme ta bouche. Et ne dis rien. Vous savez, des véritables champions de Dieu, quand ils pleurent en silence. Ça va mal dans le cœur. C'est difficile dans mon âme, mais je me tais. Et je ne dis rien jusqu'à ce que le ciel ne m'ait pas dit quelque chose. Je vais dans la présence de Dieu pour demander à Dieu de m'encourager et de parler à mon cœur. Et en ce moment, je cherche des cassettes et des messages des hommes qui sont capables d'encourager mon âme. Des hommes qui sont capables de m'amener à voir la victoire même quand l'échec est en face de moi. Des hommes qui sont capables, quand ils parlent, de m'amener à voir un futur heureux même quand tout autour de moi semble être en désordre. Je me rapproche de ces messages et je commence à croire. Suivez-moi bien. Vous savez, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous savez, avant de témoigner quelque chose de la part de l'Éternel, attendez que la puissance descende. Vous savez, j'ai dit, avant de témoigner quelque chose de la part de l'Éternel, attendez que la puissance descende. Il y a des jours où moi-même je sais, au fond de moi, que si je dis quelque chose, ça n'aura pas un impact très fort, donc je me tais. Et je cultive la puissance. C'est pour ça que dans vos moments de prière, passez le temps dans l'adoration, chantez des louanges, des cantiques, parlez en langue, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, et laissez la puissance descendre. Jusqu'à un moment où vous sentez que dedans, ça commence à bouillir et que quelque chose vous sortit et commencez à parler. Ne soyez pas les gens qui disent, oh, on dit prions, ils sont là, amen. Amen quoi? Tu as dit quoi? C'est pas prier. Il faut parler, il faut dire quelque chose. Et quand tu n'as rien à dire, adore le Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens. Appelle le Seigneur ton Dieu à ton secours. Fais-le de tout ton cœur et il mettra des paroles dans ta bouche. Pas dans la bouche de quelqu'un d'autre, dans ta propre bouche, qui vont changer ta situation. Allez demander à la femme qui a perdu son sang depuis 12 ans. Elle est allée voir tous les médecins. Elle connaissait la Bible. Elle connaissait Dieu, mais elle n'a pas eu de solution. Mais un jour, quand elle a entendu les miracles de Jésus, la foi est montée dans son cœur. Et Jésus passait. La Bible dit, elle ne s'est pas tue, mais elle s'est dit en elle-même. Si je puis simplement toucher le vêtement, je serai guéri. Et elle a avancé, elle a posé l'acte. Mais elle a d'abord dit, si je touche, je suis guéri. Elle n'a pas parlé dans son cœur, non. Elle est restée là, elle dit, si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Et elle a avancé. Et quand elle a touché, parce qu'elle avait déjà dit, la guérison a eu lieu. Écoutez-moi bien, quand ta foi a dit oui, même Dieu ne peut pas dire non. J'ai dit, quand ta foi a dit oui, Dieu même ne peut pas dire non. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Comment est-ce que tu... La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu crois dans ton cœur que Christ a accompli l'œuvre, tu confesses de ta bouche et tu annules, n'est-ce pas, ce que tu es en train de vivre pour programmer la victoire du ciel sur ta destinée. Maintenant, suivez-moi attentivement. Vous voyez, il faut être conscient. Il faut être grandement conscient de la puissance que Dieu a déployée pour vos vies. Il faut en être conscient. La puissance, le pouvoir que Dieu a relâché. Il faut en être conscient. Suivez-moi attentivement. Vous savez, est-ce que vous savez que le même pouvoir qui est descendu dans la tombe, qui a sorti Christ d'entre les morts, qui l'a amené dans la gloire, est la même puissance que chacun de nous a reçue le jour qu'il est né de nouveau? Vous le savez? Le même pouvoir, c'est-à-dire quoi? La puissance, Jésus était mort 3 jours en enfer, détenu captif. Le pouvoir est descendu et a sorti Christ d'entre les morts. Dieu me l'a montré en révélation comme un film. Extraordinaire. La puissance est descendue, ta grâce est descendue dans les membres avec une telle gloire que Jésus est remonté. Et la puissance l'a soulevé pour l'amener, défiant toutes les lois naturelles. Généralement, les corps sont attirés du haut vers le bas, mais cette puissance a attiré le corps du bas vers le haut, changeant les lois naturelles. Jusqu'à la droite du Père au troisième ciel. Et la même puissance, quand il partait, il dit, hey, ne quittez pas Jérusalem. Attendez, vous recevrez une puissance. En quelque sorte, elle est encore en moi. Mais laissez-la monter et me laisser au trône. Et elle descendra maintenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi, mais? Mais est-ce que vous savez en fait que quand il dit témoin, il voulait simplement dire, et vos confessions annonceront les décrets de la loi, de l'esprit et de vie que vous avez en moi. C'est ce que ça voulait dire. Vos bouches annonceront les décrets. Mais écoutez-moi bien. Vous n'avez pas la vie ailleurs. Vous n'avez ni en Marie, ni en Joseph, ni en Jean-Baptiste, non, en Jésus. Je vous dis, il n'y a aucune, vous n'avez la vie ailleurs, nulle part. Ce n'est pas Abraham, c'est Jésus. Ce n'est pas Marie, c'est Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Krishna, c'est Jésus. Vous n'avez pas la vie ailleurs. Souvent, les gens essaient de vous chatouiller pour contourner certaines choses, pour vous mettre à l'aise. Je ne peux pas te laisser mourir. Il faut que je te dise la vérité. Parce que la vie n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Donc, alors, comment est-ce que nous amenons donc à manifestation le processus? Quelles sont les étapes que le processus, du processus de manifestation de la loi de l'esprit et vie pour qu'on soit libéré de la loi du péché et de la mort? Numéro 1. Écris bien. Numéro 1, il faut que tu apprennes à identifier quel est ton problème. Vous prenez pour référence Marc 10, verset 51 à 52. Analysez le besoin de façon spécifique. Dans ce passage, Jésus rencontre, Marc 10, 51, 52. Dans ce passage, Jésus rencontre un homme aveugle. Et regardez ce que Jésus va faire. Il lui dit, hey, toi là, que veux-tu que je fasse pour toi? Et qu'est-ce que l'aveugle va dire? Pourquoi Jésus demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi? Parce qu'il veut voir si cet aveugle a un besoin spécifique. Il y a des gens qui sont aveugles. Si tu demandes, qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi? Il va te dire, mets de l'argent dans mon panier, je vais rester mendiant. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit que que je retrouve la vue. Une autre personne aurait dit que je sois guéri. Mais guéri, ce n'est pas spécifique. Parce que tu peux être aveugle et avoir mal aux dents. Tu peux être aveugle et avoir la diarrhée le même jour. Et quand on dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dis, je sois guéri. On va encore te demander de quoi tu veux être guéri. Il était précis. Il savait quel était son besoin. Que je retrouve la vue. Même si je n'ai pas d'argent, laisse-moi d'abord voir. C'est ce que je veux. C'est ça mon besoin. Je reçois des gens pour qui je dois prier. Que veux-tu que je fasse? Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Ce n'est pas que Dieu bénisse, ce n'est pas mon besoin. Quel est ton besoin réel? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Concrètement. Qu'il bénisse tes affaires, qu'il te donne de l'argent, qu'il t'accorde un mari, qu'il te donne du travail, qu'il te donne la promotion, qu'il te donne la paix, qu'il restaure ta joie. Quel est ton besoin? Que veux-tu que Dieu fasse? Il faut analyser le besoin de façon spécifique et savoir ce que Dieu devra faire pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Demande à ton voisin, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Écoutez la réponse, il y a ceux qui ne savent pas encore. Hein? Donc il faut analyser le besoin de façon spécifique. Est-ce que ça va? Maintenant numéro 2. Il faut maintenant que le besoin devienne un désir. Psaume 37 verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut que ton besoin devienne un désir. Vous avez déjà rencontré des gens qui ont des besoins, mais le besoin n'est plus un désir. C'est-à-dire, ça a tellement duré que bon, oh, si Dieu veut, il fait, s'il veut, il laisse pas, que sa volonté soit faite. Ce n'est plus un désir. Amen. Non, que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie, ah, c'est sa souveraineté. Je suis que son serviteur ou sa servante, je m'abandonne entre ses mains, qu'il fasse ce qu'il veut. Et là, ton besoin n'est pas un désir. Il faut que ton besoin devienne un désir. Parce que le désir va créer l'attraction de la puissance. Que ton besoin devienne un désir. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont un désir? Qui ont un désir? Ton besoin est devenu un désir. Un désir devant le trône de Dieu. Ok, numéro 3. Maintenant, il faut chercher, n'est-ce pas, les promesses de Dieu dans sa parole qui couvrent ton besoin qui est devenu un désir et planter cette promesse dans ton cœur. Il faut chercher la parole de Dieu qui couvre ton besoin qui est devenu un désir et planter, semer cette promesse-là dans ton cœur. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de ton cœur émanent les sources de vie, en quelque sorte. Pour que le miracle arrive, il faut que tu aies médité la promesse qui vient venir couvrir le besoin que tu as. Je m'explique. Si tu es malade, quelle est la portion de l'écriture que tu dois méditer? Est-ce que tu vas méditer, Dieu est bon? Non. Tu vas méditer quel passage? Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Et tu devras aller dans la Bible pour chercher les passages qui parlent de guérison, qui apportent la provision à ton besoin. Et non pas t'arrêter là, commencer à les lire, à méditer dessus pour planter ça dans ton cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas planter les promesses de Dieu dans leur cœur. Et pour référence, prenez Proverbe 4, versets 23 à 25, 20 à 25. Ok? Il faut planter les promesses de Dieu dans ton cœur et que ces promesses, n'est-ce pas, restent dans ton cœur gravées à l'intérieur. Proverbe 4, versets 20 à 25. Ok? Dans la Bible, il dit, prête l'oreille à mes discours. Qui ne se garde tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Garde dans ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Donc, il faut prendre la promesse et la garder dans ton cœur. Maintenant, suis-moi bien. Suis-moi bien. Ok? Tu as besoin d'un mari. Tu prends un passage biblique qui couvre le besoin de ton mari. Tu as besoin d'un travail. tu cherches dans la Bible le passage biblique qui pourvoit aux besoins du travail. Est-ce que ça va? Et il faut toujours avoir la promesse et la planter dans ton cœur. Comment est-ce que tu plantes la promesse dans ton cœur? Tu la médites. Et seul dans ta maison le matin, tu te lèves à midi et le soir, tu confesses ce que la Bible dit. Tu déclares toi seul dans ta prière, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit vers des verts pâturages. Tu déclares la promesse de Dieu concernant ton domaine. Si tu vis dans la peur, tu déclares, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de courage. Tu confesses, ok, l'amour parfait bannit la crainte. Tu déclares les passages, je ne suis pas dans la peur, parce que Dieu m'a délivré de la peur. Et vous savez quoi? Sans vous en rendre compte, au fur et à mesure que vous confessez cette parole, la foi va commencer à germer dans votre homme intérieur. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là. Mais maintenant, laisse-moi te dire que si tu as besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'avoir la foi pour chasser un démon. Tu vas chasser le démon, la question d'argent ne sera pas résolue. Tu as besoin d'avoir la foi dans le domaine des finances, savoir ce que Dieu dit en ce qui concerne ta provision financière. Est-ce que ça va? Beaucoup de personnes ont la foi dans un domaine et ne l'ont pas dans l'autre. Et elles s'étonnent que dans tel domaine ça marche, mais dans tel autre domaine ça ne va pas. Hein? Est-ce que vous avez rendu compte? Il y a des gens qui sont forts dans un domaine, mais très faibles dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement passé le temps à développer ce domaine. Je prends un exemple. Je suis un athlète et je veux faire du sport. Chaque jour, je vais en salle de sport, je soulève avec la main droite des haltères, ok, tout le temps. Je dépose et je rentre chez moi. Après 2 mois, ce qui va se produire, c'est que mon doigt gauche ou droit sera tellement gros et l'autre sera frêle. Ok, vous me comprenez? Pourquoi? Parce que j'ai pris mon temps à ne développer qu'un côté. Alors, quand on va me voir, on va dire, mais il est déformé. Parce que il est d'un côté, ça va, de l'autre, ça ne va pas. D'accord? Et c'est comme ça que beaucoup de personnes font. Ils sont forts d'un côté spirituellement et faibles de l'autre. Dieu veut qu'on puisse développer tous les muscles du corps. Un bon athlète développe l'équilibre, okay, de son corps. Il travaille de façon harmonieuse. Il y a d'autres personnes qui font du sport. Quand vous les voyez ici, c'est comme un chimpanzé et en bas, c'est comme un lapin. Pourquoi? Ok? Parce que quand ils vont au sport, ils passent leur temps à ne faire que des exercices du haut. Et ils oublient tout le bas. Et quand vous les voyez, ils sont tout petits en bas et tout colosse en haut. D'accord? Et là, ce n'est pas agréable. Il faut un certain équilibre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas comme ça. Hein? All right? Alors, maintenant, en cinquième point, après avoir, n'est-ce pas, transféré les promesses dans ton cœur, n'est-ce pas, cinquième, suivez-moi bien, je reprends. Numéro 1, j'ai dit d'identifier le besoin. Numéro 2, que le besoin devient un désir. Numéro 3, chercher à s'aimer la promesse dans son cœur. Numéro 4, ok, ne pas se relâcher. Continuez de méditer, de confesser cette parole jusqu'à ce que vous sentez la foi naître dans votre cœur concernant ce domaine. Ça, c'est numéro 4. Maintenant, numéro 5, vous devez proclamer des paroles remplies de foi. Et ainsi, vos paroles qui sont la résultante de la foi que vous avez bâtie dans votre cœur va activer la loi de l'esprit de vie en Jésus et va vous libérer de la loi du péché et de la mort. Si vous le faites, quel que soit le domaine de votre vie que vous faites ça, vous verrez la gloire de Dieu. Donc, écoute-moi bien, on peut t'imposer les mêmes 1000 ans. Pour un domaine précis, les choses ne bougent pas. N'oubliez pas que Dieu a besoin de voir la foi dans ton cœur. Si tu ne crois pas en quelque chose, et qu'on prie pour toi pour la chose, tu ne la verras pas. Tu ne verras pas. Parce que tu n'as pas cru en la chose. Et il y a des gens qui sont spécialistes pour fatiguer les hommes de Dieu. Viens prier pour moi. Viens prier pour moi. Et hier, ils étaient chez tel. On a prié pour eux. Le lendemain, ils couchent chez tel. Prie pour moi. et ils ont déjà fait. Quand ils arrivent devant toi, tel pasteur a prié pour moi, tel autre a prié pour moi, tel m'a imposé les mains, tel a prophétisé, tel a fait ci. Mais j'ai entendu parler de toi, je suis venu, je sais qu'il y aura un miracle. Alors je m'arrête et dis, tu as déjà trop tourné, il n'y aura aucun miracle. Le problème n'est pas, c'est l'onction de l'homme de Dieu. Le problème est à ton niveau. Parce que les hommes de Dieu sont loin. Mais toi, tu as un problème. Même si Jésus arrive, il ne résoudra pas ton problème. Écoutez-moi bien, je vous dis la vérité. Parce que Jésus n'a pas réglé les problèmes de tous ceux qui étaient avec lui. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Jésus n'a pas apporté la délivrance à tous ceux qui étaient là. Il y a des endroits où il ne pouvait rien faire. Et la Bible dit, à cause de leur incrédulité. Aussi longtemps qu'elle est là, même Dieu ne peut rien faire. Donc il faut voir si toi-même déjà tu crois en ce que tu demandes. J'ai vu des gens livrer la guerre aux hommes de Dieu parce qu'on dit que Dieu va bénir quelqu'un. Mais écoutez-moi bien, ça dit en fait, je suis tellement sidéré quand j'entends des gens dire que Dieu n'est pas pour la bénédiction. Ça, je me dis vraiment, quelqu'un qui parle comme ça n'a pas connu Dieu que je connais. C'est pas possible. Parce que je ne sais pas comment un seul moment on peut penser, ayant reçu l'Esprit du Seigneur, que Dieu veut qu'on soit maudit. C'est pas possible. Dieu veut, non, la maladie est venue pour t'éprouver, Dieu est là, et rend grâce à Dieu. Non! La maladie est dans ta vie parce que la loi du péché et de la mort continue d'avoir son emprise. Et il faut détester la maladie et rechercher la santé. Si tu le fais par le processus de la foi, tu seras guéri. Mais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne veut pas, c'est-à-dire pour lui, il ne peut pas changer ce que tu crois sans ta propre permission. Tu peux choisir de ne pas croire. Et Dieu va respecter ton choix. Mais de grâce, ne sois pas jaloux de ceux qui ont choisi le contraire et qui resplendissent de gloire sous le soleil. Tu as fait ton choix, reste dans ton choix. Est-ce que ça va? Donc, suivez-moi bien. Je vous donne un exemple pour clôturer ce message. Un homme que j'aime beaucoup, dans ma famille, lui avons réservé une très grande place. Beaucoup de personnes ici ne connaissent pas ma famille, mais une famille royale. Ce n'est pas pour rien que je suis comme ça. Nous sommes des rois dans notre famille. Et donc, nous avons une famille de personnes extrêmement glorieuses. Et donc, parmi mes arrière-grands-pères, il y a un, celui dont je suis le descendant, et qui m'a confié beaucoup d'héritage, qu'on appelait David. Et David était un jeune homme. Il me ressemblait, ok, sauf qu'il avait des cheveux plus longs. Alors la Bible dit que David était fils d'Ésaïe, n'est-ce pas? Et David était dans le champ en train de s'occuper des troupeaux de son père. Entre-temps, le peuple de Dieu était allé en guerre contre les Philistins. Et dans l'armée de Dieu, il y avait, n'est-ce pas, dans l'armée ennemie, il y avait un géant qu'on appelait qui? Goliath. Et Goliath est venu, il a lancé un défi au peuple de Dieu. Hey, si quelqu'un parmi vous est un garçon qui vient de se battre. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et quand les gens ont entendu la parole, la Bible dit qu'ils ont eu peur à cause de la parole qu'il a relâchée. Chaque parole que vous relâchez est soutenue par un Dieu. Soit elle est soutenue par le Dieu des ténèbres, c'est-à-dire Satan, soit la parole est soutenue par Dieu. Les gens qui parlent avec la puissance de Satan, véhicule la peur. Et ceux qui parlent avec la puissance de Dieu, véhicule la foi. Quand Goliath a parlé, les gens ont eu peur. Alors le jeune homme, appelant David, est arrivé. Et il a entendu ce que Goliath était en train de dire. Il regarde, il dit, mais qui est cet incirconcis qui peut oser défier l'armée du Dieu vivant? Et tout de suite, David va aller vite. Il identifie le besoin. Délivrer le peuple. Numéro 2, ça devient un désir. Numéro 3, il pose des questions tout autour. Que fera-t-on à celui qui va tuer ce Philistin? Il médite la parole. Il transfère la promesse maintenant jusque dans son cœur. et il se tient sur l'Éternel. Et numéro 5, quand la foi est montée, il dit, ton serviteur ira se battre. Mais ce que j'aime avec David, c'est que David comprenait le combat spirituel. Il savait que pour stopper la loi du péché et de la mort, il fallait proclamer des paroles. Il porte une armure, il pose un pas, il dit non, c'est pas correct, il se change. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prend Saint-Pierre poli dans le torrent, il prend sa fronde et il dit à Saül, ton serviteur ira se battre. Quand j'étais dans les champs, j'ai terrassé le lion qui venait voler ma brebis, j'ai arrêté le coup, j'ai tué l'ours. J'irai me battre contre cet incirconcis. Et quand il regarde Goliath, il devance Goliath. Il dit, tu viens avec moi par l'épée. Tu viens avec moi, n'est-ce pas, tes armes naturelles. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel, des armées. Et, suivez-moi bien, il regarde. Et puis, Goliath le maudit par ses dieux. Mais David n'écoute pas ce qui a été dit. Il n'écoute pas la malédiction qui est annoncée. Mais il dit, je te trancherai la tête. Oh my God. Il dit, je te trancherai la tête. Mais quand vous regardez David, il n'avait pas d'épée. Il n'avait pas d'arme entre ses mains. Mais il a parlé le langage. Il savait que quand tu es avec Dieu, Dieu va utiliser les armes de ton ennemi pour terrasser ton propre ennemi. Il a vu l'épée entre les mains. Il a dit, je le terrasserai. Je trancherai ta tête. Et Goliath a posé un pas, marchant vers David. Et David a commencé à courir en disant, tu ne me fais pas peur. Et quand il a pris le caillou, Goliath était sûr que ce n'était que de simples paroles. Mais David savait la puissance qu'il y avait derrière. Il a envoyé son caillou. Le caillou de David est allé comme un missile, à tête chercheuse, cherchant exactement où se trouvait le trou au niveau du casque. Le caillou a trouvé la faille et a frappé juste dans le front. Et Goliath a tombé. Vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Goliath n'a pas été tué par le caillou. Goliath a été tué par les paroles de David. Ce sont les paroles de David qui ont tué Goliath. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si David devait tuer avec le caillou, il n'aurait pas dit je trancherai ta tête. Il serait allé chercher une épée. Mais il savait que c'était ses paroles qui mettraient Goliath en déroute. Laisse-moi te dire que tes paroles vont trancher la tête de ton Goliath. Nous ne combattons pas selon la chair avec le sang, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une puissance en toi qui te rassurera ton ennemi. Il y a une puissance en toi qui renversera ton Goliath. Il y a une puissance en toi qui tranchera sa tête. Tu pourras trancher la tête de la pauvreté. Trancher la tête de cette maladie. Tu pourras trancher la tête de ce qui te cause des problèmes. Par tes paroles, n'oublie pas. Ce que tu as entre tes mains ne sera pas assez pour pouvoir livrer cette bataille. Il faut que tes paroles donnent le verdict final. Tiens-toi sur tes pieds maintenant, nous allons prier.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire.